Pani, ale widzę Pane są, a la belle des victimes, marche les partisans blancs. A la belle des victimes, marche les partisans blancs. Avant les troupes bolcheviques et ralliant les Atamans dans leur campagne sceptique, qui traquait.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 18 octobre 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 19 octobre, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Le froid et la famine, à l'épuisé par les champs, à la belle des victimes, marchaient les partisans blancs, à la belle des victimes.
Amis de la résistance, bonsoir. On l'a passé deux fois ?
Deux fois quoi ?
Le générique.
Eh ben.
Incroyable, faut quel luxe ! Vous allez bien, Victoria ?
Je vais très bien, merci.
Bien. Mais j'en suis, je trouve que vous avez la santé.
Et vous de même ?
Moi, ça va pas. Moi, je suis en colère.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vous ont encore fait ?
Parce que, j'exagère, il fait mauvais et tout. Non, ça va pas.
Quand est-ce qu'on défile contre la pluie ?
Ben, y avait
l'abus de pluie.
Y a, à l'époque où mon excellent camarade Bruno Tellen faisait dans l'humour, il avait organisé un défilé au métro glaciaire contre le froid.
C'est très bien.
C'était plaît, verglas assassin, Mitterrand complice. Mais c'est vrai, il y avait une vraie manif.
Oui, oui, oui.
On avait bien rigolé. Ce soir, nous recevrons Philippe Plancard-Assac, écrivain, essayiste. Bonsoir, monsieur Plancard-Assac.
Même qu'il est arrivé.
Bonsoir.
Nous recevrons le commandant Bunel qui part une synchronicité très militaire fait son entrée dans le studio au moment même où je prononce son nom. Bonsoir, mon commandant.
Bonsoir.
Si vous voulez prendre un siège, ce qui est normal pour un militaire, prendre un siège.
Bonjour.
Ensuite, nous recevrons qui on va recevoir encore. Ah, on va recevoir Maxime Denis et Bertrand Dumas qui ont écrit un livre intéressant et amusant. On en rentrera dans le détail de ce livre par la suite. Alain Horry de Renaissance catholique qui viendra nous parler de la 10e marche pour la vie qui aura lieu le samedi 21 octobre 2000 à Paris, de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur de Montmartre. Je recevrai également M. Jacquelin qui nous parlera de la vie quotidienne des Gaulois. Et puis, Cécilia recevra un spécialiste des fleurs, hein, ce qui n'est pas très original puisque c'est le thème de son émission. Un spécialiste des fleurs qui s'appelle Monsieur Thomas De Bruyne, fleuriste et décorateur, et qui sera accompagné d'un professeur d'art floral qui s'appelle Maki Vérine. Et le thème, c'est le métier de fleuriste décorateur. Voilà. Vous avez des choses à dire, Madame Victoria ?
Rien du tout, mais comme il y avait un Jean-Claude Duvier qui présentait les contes, les plantes que l'on foule, j'allais dire son
ben
nom
oui.
à la place.
Ben non, mais vous, non, c'est pas celui-là, c'est parce que la ville de Sannois, qui est chère à mon cœur, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce que c'est là que je suis conseiller municipal, comme vous ne l'ignorez pas.
Ah, mais oui,
je suis conseiller municipal Front National de la ville de Sannois. Ce qui vous montre un peu ce que la démocratie...
Vous allez vous représenter,
je pense bien, oui. Que la démocratie, c'est vraiment une chose sérieuse. Donc le maire, qui s'appelle Yannick...
Hein? C'est très bien, ce que vous avez dit.
Pourquoi c'est pas sérieux?
Parce que vous auriez laissé quelqu'un de sérieux faire le travail de conseiller municipal.
Ah non, attendez, si je me suis retrouvé, c'est parce que personne ne voulait y aller. Alors, excusez-moi, mais... Parce que les gens bien qui étaient là, ils ont tous été élus, puis après, il fallait des gens pour boucher les trous. Puis comme j'ai bouché le trou et qu'après, les gens bien sont partis... Je me suis retrouvé en première
en
ligne,
poste.
Voilà. Donc, le maire qui s'appelle Yannick Paternotte, qui est un monsieur très bien d'ailleurs. Mm-hmm. Je le dis, je ne l'ai pas vu souvent, mais quand je le vois, je trouve qu'il est plutôt intelligent et sympathique. Ça y est, son cas est réglé maintenant.
Le voilà barré partout.
Non, ils font beaucoup de choses à Sannois. Et là, donc, là, à la médiathèque, ils organisent le samedi 21 octobre à 15h. Ça, c'est évidemment pour nous empêcher d'aller à la 10e marche pour la vie. une conférence de Jean-Claude Huvier. C'est pas une conférence, d'ailleurs, c'est un conteur qui lira des contes « Les plantes que l'on foule ». Il est horticulteur-conteur. C'est joli comme métier, ça.
C'est joli.
Je vais donner cette carte à Cécilia, ça l'intéressera certainement de faire la connaissance d'un horticulteur-conteur. Ça va, vous avez fini vos petits...
Quoi
donc ? On peut travailler, bon. Alors, je reçois d'abord par téléphone M. Alexandre Chabanis. Bonsoir.
Bonsoir, Serge Becquet.
Comment allez-vous ?
Oui, bien. Je voulais vous dire qu'avant, une petite remarque, c'est que la vie quotidienne des Gaulois de nos jours, c'est pas la joie. Hein.
Oui, si vous habitiez en France, mais vous habitez dans les territoires occupés, alors forcément...
C'est... Oui, mais forcément, parce que personne ne veut les libérer. Il faut bien qu'on soit là. Hein.
Je vous signale qu'il y a une interview de vous extrêmement intéressante dans le Libre Journal de la France courtoise, mais que... Le celui d'en bas ayant mis la dent, vous devenez Alexandre Chaban.
Ben,
c'est rigolo, non c'est,
vous commencez ma naturalisation,
c'est oui,
l'islam, je comprends bien.
Entretien courtois avec Alexandre Chaban, fondateur du Front de Libération Nationale. Ça s'appelle une coquille.
Une mauvaise coquille.
Une mauvaise
méchante coquille.
Donc, je vais prendre les 3000 exemplaires et je vais corriger à la main pour remplacer le T par un I. Voilà, c'est fait.
Quel homme.
N'est-ce pas? Alors, on parle dans cet entretien, on va dire, c'est plus simple. On parle des états généraux et du projet des états généraux qui est toujours en route et en bonne voie.
Oui.
Mais là, je voudrais que vous nous fassiez un point rapide du projet, enfin, plus que du projet, de ce que vous allez faire là, vendredi prochain, c'est-à-dire, autrement dit, après-demain.
Oui.
C'est le dépôt de la requête en annulation du référendum.
Exactement. Oui.
Alors, la première question, c'est quand même, je vous l'ai déjà posée, mais j'y reviens, parce que, est-ce que c'est pas quand même un petit peu, ça relève pas un petit peu du geste, du ce qu'on appelait le beau geste.
Quoi, du gaulois, quoi.
Oui, du beau geste gaulois.
C'est dur,
un gaulois, truc gratuit qui dérange du monde. Et ça, c'est
non,
pas
non,
grand
je vais
chose,
vous dire pourquoi, Serge. Et voyons, c'était pas concerté, mais je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des requêtes, et certaines se posaient la question de dire si ça servait à quelque chose. Alors je vais vous répondre quand même très précisément. C'est un problème de droit qui nous est posé, et qui est posé à toute la France en plus. Je vais vous dire, par exemple, des gens très sérieux, comme des souverainistes, comme M. Choisel ou M. Chalumeau, ont signé la requête. Donc c'est des gens qui ont dans leur staff juridique, des gens qui sont assez cohérents. Donc ils ont eux-mêmes signé la requête, voilà. Donc, ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que nous avons, dans le cadre de notre campagne sur le référendum sur l'immigration et l'intégration, nous avons fait un choix. Alors, aujourd'hui, il faut aller au bout de ce choix. Nous avons choisi l'abstention et un bulletin de vote circonstancié. Donc, nous sommes majoritaires. C'est un problème de droit. Alors, il s'agit pour nous, Français, d'appliquer une logique de droit. Et qu'est-ce qui se passe? Une ultra-minorité, c'est-à-dire l'ultra-minorité qui nous gouverne, peut modifier la Constitution du fait qu'elle détient le pouvoir exécutif, c'est ce qui se passe dans ce référendum. Les Français doivent constater que nous sommes dans une dictature de type socialiste. Pourquoi ? En effet, le peuple français, que le peuple français vote ou ne vote pas, l'ultra-minorité qui compose l'exécutif actuel décide contre la volonté du peuple français. La volonté n'était pas dans ce référendum. Nous demandons au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel de trancher. Et vous allez voir jusqu'où va cette démarche. Car s'ils admettent, ces deux conseils, qu'une ultra-minorité élective, en l'espèce le parti cohabitationniste Jospin-Chirac, peut modifier la Constitution, même si les règles de procédure de la convocation du référendum ont été respectées, et là on peut faire un rappel avec Milosevic, mais Milosevic, même dans son, quand il parle du pouvoir, il est minoritaire, mais il a quand même des voix, vous comprenez, et il s'en va. C'est pour ça que nous sommes en droit, devant cette minorité qui modifie la Constitution, nous sommes en droit aujourd'hui de présenter notre requête, mais non seulement nous sommes en droit de présenter cette requête, mais aussi de ne plus avoir recours à l'exécutif pour appeler au référendum sur l'immigration-intégration, et nous n'avons plus besoin de passer, si la requête n'est pas reçue, juridiquement, de passer par les institutions. Et ce, parce que l'appel aux états généraux du peuple français, c'est ce que je dis dans l'interview du peuple français, nous décréterons ouvert le référendum sans l'exécutif, nous décréterons ouvert le référendum sur l'immigration-intégration. Parce que les états généraux appelleront à une rupture avec un système institutionnel lié à l'exécutif qui est ultra-minoritaire sur tous les grands sujets de société dont les Français veulent avoir connaissance. Ce pouvoir est ultra-minoritaire et fonctionne sans et contre le peuple français. Car ce qui a été mis en évidence dans ce référendum, c'est que cette ultra-minorité, et je vais le répéter, du peuple français, dit cohabitationniste, et vous voyez l'élection de Chevènement qui est assez splendide, monsieur Chevènement, avec qui on fait un gros battage en disant qu'il est ci, qu'il est ça, se voit opposer une abstention, même dans son pays, n'est pas maître, de 61%, malgré tout ce qu'on fait pour lui, les médias. Donc ces gens-là, qui contrôlent l'opinion publique, qui ont leur main mise sur les médias, n'arrivent plus à faire bouger ce peuple. Donc nous rentrons dans une dictature intellectuelle par le contrôle des médias. Et le vote approuvé, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel auront à trancher sur cette minorité, à savoir si cette minorité représente encore la France ou la représente plus. Le peuple français a dit non, vous ne la représentez plus. Aujourd'hui, cette ultra-minorité conserve un pouvoir dans lequel le peuple français ne se reconnaît plus. En ne votant plus, le peuple français assimile ce pouvoir à une dictature de l'esprit. Alors, voilà ce qui est le fond de cette requête pour répondre à ce que vous dites. Si on modifie la Constitution avec 15% des votants, eh bien, nous sommes rentrés dans une dictature de fait. Parce que, en effet, c'est le quorum, ce que nous avions évoqué, nous avons en détail, nous, pourquoi on n'a pas fixé un quorum. Voilà le détail qui doit faire qu'on doit annuler ce référendum. Et voilà pourquoi nous allons au bout et que nous disons, si cette minorité est reconnue, pouvant modifier la Constitution avec 10% des votants, 15% des votants, nous disons que demain, nous appelons aux États généraux, et les États généraux décideront et imposeront le référendum sur l'immigration-intégration. Voilà.
Ok, mais c'est clair. Alors, donc, ce dépôt de requête se déroule vendredi à midi.
Oui, alors je peux vous donner quelques détails sur le dépôt lui-même.
Oui.
Bon, pour le dépôt, il faut signer votre requête et la photocopier trois fois. Alors, on a eu un petit truc, mais c'est pas grave. Je ferai deux types de dépôt de requête. Il faut emmener ceux qui seront présents, il y en a déjà pas mal, emmener un timbre de 100 francs, un timbre fiscal de 100 francs qu'il faudra déposer sur votre requête. Bon, n'oubliez pas...
Vous venez de perdre la moitié des manifestants, là, déjà.
Non, mais c'est pas grave, il faut qu'ils viennent pour se battre, ils viennent pas pour 100 francs. Il faut qu'ils apprennent on n'est pas là pour manifester, on est là pour faire un acte de droit. Ne pas oublier de mettre le lieu de naissance. Je reçois des requêtes de province où le lieu de naissance n'est pas mis, et surtout le bureau de vote n'est pas mis. Et aussi, on ne raye pas la mention vote blanc ou abstention. Voilà. Donc acheter simple et sale. Pour la province, nous ferons un dépôt à l'identique, c'est-à-dire que je déposerai une requête et je joindrai l'ensemble des requêtes que j'ai reçues. Voilà. Alors pour toute information, donc la requête se passe vendredi, 20 octobre 2000. Rendez-vous devant le Conseil d'État à 12h et nous ferons une conférence de presse. Nous avons convoqué la presse. Elle viendra pas, on s'en fout. Le fait est que nous allons au-delà de ces mécanismes de contrôle des médias. Les médias veulent le rendre compte, ils veulent pas le rendre compte, peu importe, on va gagner. Alors, se tiendra une conférence de presse devant le conseil. Alors, je dis, je voudrais finir là-dessus. Si vous avez des... Je reprendrai ça. Je dis, face à cette occupation du sol français proclamée et organisée par une ultra-minorité cohabitationniste et collaborationniste, le peuple français déclare ouvert, nous déclarons ouvert par cette requête, les états généraux du peuple français sur l'intégration et l'immigration, et ces états généraux écriront et doivent écrire la loi du retour. Voilà. Alors, je demande aux gens, il faut absolument que les moyens nous sont donnés pour faire éclater le mécanisme, que je puisse structurer mon action, donc toujours ce petit appel, et je dirais qu'il faut nous contacter aussi bien pour le dépôt de la requête que pour la poursuite de l'action au Front de Libération Nationale, 34 Grande Rue, 95-550 Bessancourt, 34 Grande Rue, 95-550 Bessancourt, téléphone fax 01-30-40-03-71, 01-30-40-03-71. À la fin, peux-tu rappeler?
Ok, promis, on l'appellera. Victoria le fera avec un immense plaisir. Merci Alexandre.
Victoria.
C'est réciproque.
On adore que Dieu, mais sauf Victoria. Je peux faire une exception.
Merci Alexandre, à bientôt.
Salut, au revoir.
Voilà, je dois dire que je suis plus en plus d'accord avec Chabanis quand il parle de la dictature. Moi, je suis pas contre la dictature, mais à condition que les dictateurs soient des gens que j'aime bien. Alors là, c'est pas le cas, donc cette dictature-là ne me plaît pas. Quand je vois, je sais pas si vous vous rendez compte où on en est arrivé. On parle de Alexandre Chabanis parlait de dictature d'une ultra-minorité. Mais on peut pas donner une meilleure définition de la situation actuelle. Madame Le Branchu vient d'être nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Le Branchu, elle est communiste ou je suis fou?
Non,
elle est communiste. C'est-à-dire qu'on est le seul pays au monde, à part la Chine et Cuba, à avoir, et puis des pays qui sont même pas des pays, qui sont des contrées douteuses, qui n'ont pas d'existence réelle en dehors des pages des journaux, des pages étrangères des journaux. Mais on est le seul pays au monde à avoir un garde des Sceaux communiste. Mais vous vous rendez compte? On a une femme qui est ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est le complice de ce qui a été le régime de terreur le plus violent, le plus destructeur, le plus meurtrier du XXe siècle. C'est des gens qui ont massacré des millions, des dizaines de millions de gens avec la complicité des communistes en France. Le Parti communiste, c'était la section française de la Troisième Internationale, c'est-à-dire c'était une organisation criminelle de subversion en France. Cette organisation criminelle s'est transformée en mafia. Le Parti communiste aujourd'hui est une mafia. Il est constitué de gens qui sont des voleurs, qui pillent les finances publiques. Le secrétaire général du Parti communiste, il y a quelque temps, comparaissait devant la justice sous l'inculpation de détournement de fonds publics. Voilà où on en est arrivé. Et une représentante de ce parti, aujourd'hui, nous dit, je vais administrer la justice en France. Mais attendez, on est fous ou quoi? Je rêve ou quoi? Est-ce que ça va s'arrêter? Et ça, sous le gouvernement de Chirac. Mais comment les Français peuvent-ils supporter ça? Comment les députés de la droite, qui osent encore se revendiquer de la droite, peuvent-ils accepter une chose pareille? Il n'y a pas un pays au monde où, une communiste étant foutue au ministère de la Justice, il n'y aurait pas des manifestations dans les rues. Mais enfin, on vit dans un pays de fous furieux. Il y a, vous avez une bande de mafieux qui est au pouvoir, qui passe son temps à voler tout le monde, et une bande de larves, de moutons, même pas des veaux, les veaux, le mot est trop beau, une bande mais véritablement de larves, de cloportes, qui vit dans ce pays. On ne sait pas comment, de quoi ils vivent, on ne sait pas, ils regardent la téloche. Je regardais hier soir, pas moi, je regardais pas, mon fils m'a téléphoné parce qu'il a regardé cette émission de cet infecte petit personnage immonde de Ruquier qui recevait comment s'appelle cette femme qui milite contre l'avortement, enfin
Madame Boutin,
Madame Christine Boutin. J'ai bien compris, c'est bien Madame Boutin qui était dans cette émission, qui a été insultée.
Je
ne
sais pas, je
n'ai
pas regardé l'émission, mais
insultée comme on n'oserait pas parler à une putain de la rue de Buda. Ils l'ont traînée dans la boue, ils l'ont injuriée, etc. Alors tout le monde trouve ça très bien. Tout ça parce qu'elle est contre l'avortement.
Tout le monde trouve ça tout à fait naturel. On peut injurier Madame Boutin autant qu'on veut. Moi, j'ai absolument aucune sympathie pour Madame Boutin. Aucune. Vraiment aucune. Parce que elle, je trouve qu'elle mène le combat contre l'avortement d'une façon aberrante. Enfin, en tout cas, elle mène le combat. Ils l'ont traitée d'une façon ignoble. Et je dirais que c'est de sa faute. Qu'est-ce qu'elle a à foutre dans l'émission de Ruquier et de sa bande? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans des émissions comme ça? J'ai vu mes amis de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Les petits personnages, les petits cloportes de cette émission sont allés les interviewer sur le parvis de l'église. Ils ont répondu. Mais pourquoi vous répondez aux radios et télévisions? Pourquoi vous parlez devant la télévision? J'ai vu un garçon que je connais depuis des années qui s'appelle Tabarik Tati, formidable. C'est le prototype du militant d'Action française, d'un dévouement extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a à foutre de parler devant une caméra? À quoi ça sert de parler à ces crapules, cette petite ordure qui racontait qu'il était allé à Saint-Nicolas-du-Chardonnay avec une bombe lacrymogène dans la poche parce qu'il avait peur de se faire casser la gueule? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce mensonge, cette désinformation, cette crapulerie, cette ordure morale en permanence, ce dégueulis d'ivrogne sur la droite, sur les Français et sur les gens qui méritent quand même un tout petit peu de respect? Et Mme Boutin va se commettre dans ce bordel? Ben, il ne faut pas qu'elle s'étonne d'être traitée comme elle a été traitée. Il ne faut pas se plaindre. Quand je vois les abbés, nos bons abbés qui viennent me dire « Ah, je suis passé à la télévision, dites donc, ils n'ont pas été corrects. » Mais il fallait pas y aller. Si vous allez dans un club à botter les culs ou faites botter les fesses, il ne faut pas vous étonner. C'est normal. On reçoit ce qu'on distribue dans les endroits où on va. Moi, je ne vais pas à la télévision. Alors vous faites les complices de cette canaille, de ces gens sordides, répugnants, de ces petits pédés, de ces petits camés, de ces petites putasses de l'intelligentsia parisienne. Et après vous vous étonnez d'être traité comme des chiens, mais c'est bien fait pour vous. Enfin. Non, j'ai pas raison. C'est les mots qui vous plaisent pas?
Non, c'est pas les mots. Non. J'adore ça.
Alors voilà. Maintenant, Mme Lebranchu est ministre de la Justice.
Ah, alors, attendez, sur Mme Lebranchu, c'était pour elle que je voulais parler. Un auditeur vous dit, Serge de Becquet, je vous racontais n'importe quoi. Mme Lebranchu n'est pas plus communiste que vous êtes ecclésiastique. Elle est inscrite au PS. Ah.
Elle est PS.
Elle est inscrite au PS. Moi, je ne sais pas. J'avoue honnêtement.
J'ai toujours pensé qu'elle était communiste.
Je n'ai pas d'opinion sur la question.
Elle est marxiste, disons.
Ça. Bon. Je vous laisse la responsabilité.
Ah ben, marxiste. J'étais absolument convaincu qu'elle était communiste. Avec qui je confonds alors?
Je ne sais pas.
Avec une autre, vous croyez?
Oui, sûrement, il y en a déjà un certain nombre.
Bon, ça ne retire rien à ce que
je dis. Il y a Mme Buffet?
Ah, c'est peut-être Buffet. Elle est communiste, Buffet?
Je crois, oui.
Belle dans le Buffet?
Tout à fait.
Ah ben, c'est ça. J'ai dû confondre le branchu. Parce que le branchu, je sais pourquoi j'ai confondu, vous savez ce que ça veut dire, le branchu?
Non.
Ça veut dire le pendu. Quand on disait brancher quelqu'un, c'est le pendre. Donc un branchu, c'est un pendu. Bon, alors je ne retire rien. Vous changez les noms, c'est tout, c'est pareil. Je voulais parler d'autre chose. Alors là, je ne vais pas me tromper. Je voulais parler d'antisémitisme. Parce que je me souviens qu'il y a quand même... Il n'y a pas si longtemps que ça, on nous expliquait que l'extrême droite était antisémite en France. Enfin, j'ai toujours entendu ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur antisémite?
Ça veut dire qu'il est contre les sémites. D'ailleurs, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'on
dit... Qui c'est les sémites, monsieur?
Attendez, laissez-moi venir. On ne dit pas sémitophobe. Hein? On ne dit pas racistophobe. On dit antisémite et antiraciste. Voyez, c'est curieux. Tandis qu'on dit homophobe et xénophobe. Ça vous frappe pas, ça? Alors, donc il y a quelques années, on nous expliquait que l'extrême droite était antisémite. Et là, d'un seul coup, on a en moins d'une semaine 80 attentats contre des synagogues. Alors là, j'ai dit, mon Dieu, Le Pen, il ne doit plus avoir un spoil de sec. Hein. Parce qu'il va aller en taule, c'est obligé. Maigret va le suivre immédiatement, ils vont probablement les mettre dans la même cellule, et puis il sortira ce qui sortira. Eh ben non, il n'y a pas un mot. Et Le Pen disparu, Maigret n'en parle pas, le Front National n'est pas dans le coup, le Mouvement National Révolutionnaire non plus. Ah non, Républicain, pardon. Révolutionnaire, c'était de mon temps. Une fois qu'avec Malia, Malia avait créé le MNR. Alors, je ne comprends plus, moi, qu'est-ce qui a changé? Le Front National est plus antisémite depuis quand? On ne m'a même pas prévenu, on ne me dit rien. Le MNR non plus. L'extrême droite n'est plus antisémite. Mais il faut prévenir, les gars, écoutez. À moins que ce ne soit pas les militants du Front National et du MNR qui décident s'ils sont antisémites ou pas. C'est peut-être les autres qui décident qui est antisémite. Alors, effectivement, là, ils ont décidé que les antisémites, maintenant, c'est les beurs des banlieues. Mais du coup, il se passe une chose qui est extraordinaire, c'est que l'antisémitisme, il y a 2 ans, c'était une chose, c'était l'abomination de la désolation, il n'y avait pas de crime pire. Vous pouviez violer toutes les petites filles du couvent des oiseaux, c'était moins pire que de faire une croix gammée sur une synagogue. Hein. Et bien maintenant, du coup, ça devient quelque chose de... Bon, c'est pas si grave que ça, on a vu le ministre, je sais pas lequel, comment il s'appelle, je peux me méfier avec les noms maintenant, le ministre de la ville, qui a expliqué que... Oh, c'était pas vraiment 80 attentats antisémites en une semaine. On peut pas parler d'un mouvement de fond. Vous comprenez, c'est des jeunes désœuvrés qui font. Ils savent pas trop ce qu'ils font.
Ils savent pas pourquoi.
Pas pourquoi ils sont antisémites. Alors donc c'est pas dangereux. Attendez, excusez-moi. Moi je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup plus dangereux un type qui sait pas pourquoi il est antisémite et qui fait des attentats antisémites, plutôt qu'un type qui sait pourquoi il est antisémite et qui fait pas d'attentats. Enfin, ça, c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais je trouve qu'en général, les gens qui savent pourquoi ils ont une opinion sont moins dangereux que ceux qui savent pas. On a de nombreuses expériences de ça. C'est démontré, ce que je dis. C'est vu à la télé. Donc, vous voyez bien que l'antisémitisme, c'est un truc à géométrie variable, comme on disait dans le temps à propos de des avions. Quand c'est des Français qui sont pas antisémites, mais que ça arrange de traiter d'antisémites, on les traite d'antisémites. Et quand c'est des Français, mais d'un Français, voilà. Alors eux, on dit ils sont pas antisémites, bien qu'ils fassent des gestes qui paraissent antisémites. Alors deuxième pourquoi. Pourquoi? Mais parce que un Arabe peut pas être antisémite par le fait, puisqu'il est sémite. Alors. Et c'est embêtant tout ça. Je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller tout ça. Si, je crois savoir. Attendez-vous à savoir, comme disait mon excellent camarade Geneviève Tabouy, que on va, vous allez voir, je vous le dis, je signale que quand même il y a un mois à peu près, j'avais écrit dans le Libre Journal imprimé, il va y avoir des attentats antisémites en France. Mais bêtement, je ne pensais pas que ça irait jusqu'en Israël, je croyais que ça serait limité à la France, parce que je m'étais dit, ils vont monter un turban antisémite pour étouffer l'histoire des affaires. Quand on commence à raconter que le président de la République reçoit des valoches de fric, c'est le moment de faire des attentats antisémites, parce qu'il faut quand même parler d'autre chose. Donc, mais les raisons que j'avais trouvées n'étaient pas bonnes, mais j'étais arrivé au bon résultat par des mauvaises voies. Tandis que là, je crois que je suis au bon résultat par des bonnes voies. À mon avis, avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait, on va arrêter un crâne rasé qui aura eu pendant 2 jours une carte du MNR ou du Front National dans sa poche et qui va être trouvé avec un briquet, une bouteille d'essence, un vieux mouchoir dans un rayon de 400 mètres autour d'une synagogue. D'ailleurs, maintenant, à Paris, pour être ailleurs que dans un rayon de 400 mètres autour d'une synagogue, il faut quand même se lever le matin. Il faut zigzaguer pas mal dans les rues. Hein. C'est ça qui va se passer, vous allez voir. Je suis certain qu'ils vont nous arrêter un extrémiste de droite, parce que les bords des banlieues, en plus, ils les arrêtent, les flics. Ils sont quand même très maladroits. Hein. J'ai jamais vu autant d'arrestations de coupables d'attentats en aussi peu de temps, pratiquement. Hein? Là, les gars mettent le feu à la synagogue de Trappes, 3 jours plus tard, ils sont en prison. À la synagogue de Bondy, une semaine plus tard, ils sont arrêtés. Et c'est toujours des jeunes, des bandes de jeunes. Alors, on nous dit 2 majeurs dont un mineur, donc on ne peut pas dire les prénoms, les noms. On peut dire les prénoms, c'est pas gênant. Oui, probablement, ils s'appellent Grégoire, Jean-Philippe et...
Alexandre.
Alexandre Victor, oui, c'est ça. Voilà, je vous demande de méditer là-dessus pour la prochaine fois où on vous fera un petit numéro sur l'antisémitisme. Ça vous permettra de prendre un peu de recul. Il y a une troisième histoire quand même dont je voudrais parler en 2 mots, après je donnerai la parole à mes invités. C'est l'intéressante affaire Citruc. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est quand même une très très belle histoire. Je résume rapidement. Monsieur Citruc, le grand rabbin de Paris, dont on dit d'ailleurs qu'il est séfarade parce que l'archevêque de Paris est askénaze. Ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est une histoire entre eux. Et donc, le grand rabbin de Paris intervient l'autre jour, toutes affaires cessantes sur France Inter, l'émission de Stéphane Paoli, de Radio d'État, pour annoncer qu'il y a eu il appelle de Jérusalem, hein, où il est allé pour la fête des cabanes. Donc il appelle pour dire que 6 enfants, dont un enfant juif, Paoli dit même un enfant israélien. C'est intéressant comme lapsus.
viennent d'être poignardés dans l'école Henri-Yosef du 19e arrondissement de Paris. Et l'enfant est mort. Un des enfants est mort, poignardé, tué parce qu'il était juif, dit le rabbin Citruc, qui sait ça parce qu'il est à Jérusalem, il est vachement bien informé, il sait qu'il y a eu 6 morts, il sait, enfin, 6 blessés, il sait qu'il y en a un mort, et parce qu'il était juif. Ça peut être pour mille autres raisons, mais lui, il sait que c'est parce qu'il était juif. Et puis, quelques temps plus tard, on apprend que c'est pas vrai du tout. Tout ça est totalement faux. Il s'est absolument rien passé. Il n'y a même pas eu un coup de pied au fondement d'un enfant. Alors, on interroge le rabbin Citruc et on lui dit, vous croyez pas que vous avez un peu perdu votre sang-froid? Il a cette réponse admirable. Parce que c'est pas vrai. Je répète que c'est pas vrai du tout. Il n'y a absolument eu rien. Rien du tout. Même pas une gifle. Même pas un vol de kippa. Rien du tout. Et alors, le rabbin Citruc, on lui dit, vous trouvez pas que vous avez exagéré, vous n'avez pas l'impression que vous avez perdu votre sang-froid? Il dit, non, non, j'ai pas perdu mon sang-froid, j'ai simplement commis une erreur dans la gradation de la vérité. C'est admirable. Hein? Alors, voilà. La gradation de la vérité. Je vous invite à lire le dernier numéro du Libre Journal. D'abord parce que ça me rendra service, et ensuite parce que j'ai fait une petite étude sémantique d'un article du Monde, dans lequel un journaliste... Alors, le Monde rapporte les propos d'un journaliste juif sur Radio Shalom. Et ce journaliste dit ça. Je vous demande de méditer cette phrase. C'est probablement... Moi, je la tiens pour la phrase la plus importante qui a été écrite, dite à une radio et écrite dans un journal depuis pratiquement... certainement depuis le début de l'année. Je cite, hein. « Dans les médias, on nous a toujours demandé de traiter la situation dans les banlieues avec prudence afin de ne pas attiser les passions. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tolérer les débordements et les falsifications. Les Juifs ne veulent pas être les boucs émissaires des tensions observées par les banlieues. Point, fermez les guillemets. Voilà. Si vous réfléchissez bien à ce que veut dire cette phrase, c'est gigantesque. Si vous avez la flemme de réfléchir, je l'ai fait pour vous. Donc vous envoyez un carnet de timbre à 3 francs, c'est-à-dire 30 francs au Libre Journal, 4 places France Liste.
Il y aurait 10 pour la multiplication.
Et puis on vous enverra le numéro 219 du Libre Journal, dans lequel il y a 2 pages de réflexion et d'analyse sur cette phrase qui, à mon avis, est capitale.
Et un auditeur vous donne une précision sur le vocabulaire. Les agressions contre les synagogues sont appelées des violences urbaines par le journal Libération, et non des actes antisémites. Hein,
oui, mais absolument, ce sont des violences. Mais là, le vocabulaire, c'est intéressant. Et dans le prochain numéro du Libre Journal, on publiera un travail qui a été fait par un spécialiste des questions de vocabulaire, des questions sémantiques, etc., sur les manipulations du vocabulaire. C'est passionnant. Et moi, je remarque une chose, c'est que, par exemple, quand le Hezbollah, qui est un mouvement de résistance, alors, c'est un mouvement terroriste, hein, ou un mouvement de résistance, ça dépend dans quel camp on se place. Quand il attrape un agent israélien en mission en territoire libanais, l'agent israélien en question est un otage. Et quand les Israéliens attrapent un gars de Hezbollah qui est en mission en territoire israélien, c'est un prisonnier. Vous voyez ? C'est... Voilà, il faut avoir la chance de naître dans le bon camp. Si vous êtes dans le mauvais, vous avez du souci à vous faire. Mais il ne faut pas désespérer, parce que je vous rappelle quand même que les gens qui étaient des terroristes en 43 sont devenus des héros en 45, et les gens qui étaient des magistrats en 43 sont devenus des détenus en 45, et parfois même des fusillés. Quoi qu'il n'y a pas eu beaucoup de magistrats fusillés, il faut bien reconnaître, on avait plutôt tendance à fusiller les journalistes que les magistrats. Mais tout ça nous donne un peu d'espoir. Peut-être qu'un jour, on pourra fusiller des magistrats, je ne sais pas. Nous, quand une fois qu'on aura libéré le pays, la résistance, on pourra peut-être faire ça. Je ne dis pas que je prendrai du plaisir, mais il faut ce qu'il faut.
C'est ça, jouer les sanguinaires, ça vous va bien.
Bon. Allez, alors, messieurs, pardon d'avoir été un peu long. Monsieur, mon commandant, commandant Bunel, donc je rappelle qui vous êtes. Vous êtes commandant de l'armée française en disponibilité.
En retraite.
Si vous voulez vous approcher du micro, en retraite, c'est génial. Il n'a pas 40 ans, il est en retraite. C'est le rêve, celui-là.
J'ai un peu plus de 40 ans, vous êtes gentil.
Vous avez plus de 40 ans ?
Ah ouais, j'ai 48 ans.
Ah, vous ne le faites pas, ça conserve. Là,
ça conserve, hein, parce qu'on ne fait rien. Mieux ça commence tôt et ça finit tard.
C'est comme les curés, que vous travaillez le dimanche, même pas d'ailleurs. Alors, donc, vous avez été, comment dirais-je, inculpé d'intelligence avec l'ennemi. Quand un militaire est inculpé d'intelligence, c'est bon signe en général.
Oui, c'est assez rare.
En l'occurrence, avec un ennemi dont on avait dit que ce n'était pas un ennemi, puisqu'il s'agit de la Serbie.
Ben oui. Hein,
donc ça, c'est au moins curieux. Et vous attendez votre procès,
oui.
Qui viendra un jour peut-être, hein, quand ils auront trouvé le moyen de s'en dépatouiller.
Et en attendant, vous avez publié d'ores et déjà un livre.
Oui.
Dont je vais vous demander de rappeler le titre.
Alors, ce livre s'appelle « Crimes de guerre à l'OTAN ». Il est publié aux éditions numéro 1. Il n'a pas trop mal marché puisqu'on le réimprime. Et bien qu'il n'ait pas eu d'ailleurs beaucoup de publicité sur les médias, je dirais, à grande diffusion, il en a eu dans les médias régionaux.
Alors, donc votre présence ici s'explique par le fait que vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient, vous parlez l'arabe, vous parlez à peu près toutes les langues du coin là-bas, vous parlez hébreu.
Non, je m'y mettais sans m'en rendre compte, mais bon.
Ça sert plus à rien maintenant si vous êtes en retraite.
Ah, si. Non, parce que retraite militaire. Mais pour le moment, je suis un petit peu coincé dans mes entreprises parce que je ne peux pas voyager. Je suis encore sous contrôle judiciaire. Mais je compte bien entreprendre une nouvelle carrière et qui me conduira à retourner là-bas.
Alors, vous êtes en train de travailler un deuxième livre.
Oui.
Vous avez la gentillesse de donner de temps en temps un article au Libre Journal.
Oui, ce qui me paraît tout à fait naturel.
Qui paraît l'intitulé générique de questions d'intelligence, qui me paraît normal puisque vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle en termes militaires, alors l'intelligence, autrement dit, le renseignement. Et le contre-espionnage, parce que l'espionnage n'existe pas, on est bien d'accord.
Ah non, il n'y a pas d'espionnage. Non, jamais. Non, il y a des gens qui nous espionnent, qui sont fort méchants, mais nous, non. Nous nous informons, nous nous renseignons.
Et alors, à côté de vous, Jacques Pancardassac. Hop. À chaque fois, je la fais à chaque fois, c'est pas vrai ça. C'est comme quand je parlais à Karl Lang, que chaque fois je l'appelais Jacques. Alors, ça lui faisait très plaisir.
Non, bon, il l'aimait.
Ah oui, c'est moins grave quoi. Bon, alors, Philippe Pancardassac, pardon. Mais écoutez, quand on a un père célèbre et fameux, il faut le porter cette croix, si j'ose dire. C'est une croix plaisante d'ailleurs.
C'est une décoration, c'est pas une croix.
C'est une croix d'honneur.
Oui, exactement.
Donc, alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Le nationalisme français.
Tout à fait.
Critique. Et vous tenez une rubrique dans le Libre Journal qui s'appelle Critique nationaliste,
oui.
Dans laquelle, du point de vue nationaliste, vous considérez la situation nationale ou internationale. Donc, je vous ai invité tous les deux ce soir pour parler de la situation internationale et de ses retombées nationales. Alors, je me tourne d'abord vers le commandant Bunel. Commandant, à partir de ce que vous savez de la situation, de ce que vous en avez appris quand vous étiez sur le terrain ou proche du terrain, et de ce que vous en savez aujourd'hui, est-ce que comment voyez-vous la situation, comment la voyez-vous évoluer sur place?
Nous avons actuellement, à mon avis, alors en Palestine, c'est-à-dire Israël, territoires occupés, nous avons un cap un peu difficile à passer, mais je crois que le mouvement est irréversible. Le problème vient actuellement de ce que, des deux côtés, il y a encore des intérêts à soutenir les extrémistes. Or, les extrémistes sont en danger de paix. De toutes les données de l'histoire, la géographie est la seule qui ne change pas. Et compte tenu de l'évolution du monde actuel, la seule solution pour les différents mouvements qui se télescopent sur le Moyen-Orient, je vous rappelle que le Moyen-Orient, c'est la taille de la France, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, c'est-à-dire Syrie, Irak, Jordanie, Palestine. Donc sur cette zone-là, la seule solution qu'ils aient, c'est de s'entendre. Pour s'entendre, il va falloir accepter des compromis. Et ces compromis devront respecter les sentiments nationaux qui sont extrêmement forts là-bas. Donc, il ne pourra pas y avoir de solution sans un État palestinien, avec sa dignité, c'est-à-dire avec sa terre. Et ça, je pense que M. Barak l'a parfaitement compris, mais qu'il est pris entre deux feux. Et cette situation me rappelle tout à fait, avec peut-être une gradation un peu différente, pas dans la vérité, dans la gravité, ça me rappelle la situation de M. Kostunica dans les Balkans. Il y a un autre point extrêmement important sur le Moyen-Orient et qu'on ne peut pas dissocier, c'est qu'il y a eu des avions qui sont allés à Bagdad parce que de plus en plus de gens en ont ras-le-bol de l'embargo. Donc nous avons actuellement une situation qui me paraît achoppée parce que les intérêts américains sont menacés. Les intérêts de l'administration américaine, parce que ce ne sont pas forcément la même chose que les intérêts américains. Et ils sont menacés dans beaucoup d'endroits. Ils sont menacés en Turquie, ils sont menacés en Irak, ils sont menacés en Palestine, ils sont menacés dans les Balkans. Et pour le moment, bien que j'arrive à avoir finalement pas mal d'informations, il y a une synthèse que je n'ai pas encore faite parce que c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a eu comme tractation entre l'Europe et l'administration Clinton pour que, apparemment, l'administration Clinton lève le pied dans les Balkans? Voilà la question que je me pose.
Mais donc il y a un lien, selon vous, entre l'Europe, ce qui se passe en Europe centrale et ce qui se passe au Proche-Orient?
Absolument, ainsi que ce qui se passe au Xinjiang, où il y a un problème islamique qui, comme par hasard, est à une démarche de l'ancien empire russe. Tout ce qui se passe et qui bloque l'accès des Russes vers des zones commercialement viables est en fait lié.
Ça veut dire que ce que dit Blanza dans le Libre Journal quand il évoque la question de la route de la soie, la question du grand axe Orient Europe qui passe par tous les points chauds en ce moment, c'est tout à fait fondé. C'est là que se passe le grand débat.
À mon avis, c'est un des points fondamentaux des relations internationales, sans que ce soit forcément calculé de la part du département d'État. Mais je pense qu'effectivement, il y a là une vérité géographique. Parce que la géographie, ça traite de la terre, des reliefs, des eaux et des hommes, surtout.
Alors, donc, il y a toujours le problème, c'est l'éternel problème de l'accès aux mers chaudes. De l'accès des Russes aux mers chaudes, et puis le problème relativement nouveau alors de l'accès à l'eau potable, qui pour le Moyen-Orient est quelque chose de capital, qui explique d'ailleurs l'existence d'un axe Turquie-Israël et la position bizarroïde de la Syrie dans cette affaire.
Absolument, et je pense que le problème de l'eau est tel que ça va être aussi un des facteurs qui va obliger les différents gouvernements de la région, quand ils seront arrivés à secouer le joug des prétendues grandes puissances, à s'entendre.
Et l'autre jour, sur Europe 1, un spécialiste, je ne sais pas si c'est Chalian ou l'autre, un spécialiste de des questions politiques internationales, stratégiques, etc., disait que si en ce moment même, en Palestine, il n'y avait pas les télévisions avec des caméras et des journalistes avec des appareils photo, etc., il y aurait un massacre de masse. Autrement dit, il semble que pour qu'il y ait un massacre de masse, il faut d'une part qu'il y ait un massacreur, et puis d'autre part qu'il y ait des témoins qui tournent la tête. D'après ce que vous dites, moi l'impression que j'ai, c'est que, pour parler vulgairement, les Palestiniens emmerdent tout le monde. On aimerait bien s'en débarrasser. Alors, ça serait quand même la solution, ça.
Là, je voudrais attirer votre attention sur un petit événement. Il y a eu dans le port d'Aden un bateau américain qui a eu une collision assez violente avec un canot pneumatique qui me bourrait de trucs que la morale réprouve. Bon, tout le monde a hurlé à la mort en essayant de trouver une collusion avec les Palestiniens.
Ah ben, on a dit tout de suite que c'était...
On a dit que c'est Oussama Ben Laden.
Ça ne mange pas de pain, de toute façon.
De toute façon, il faut toujours au FBI, à la CIA et au département d'État un coupable désigné. Ouais. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que le lendemain matin, c'est l'ambassade britannique à Aden qui a été touchée. Or, quand vous analysez cette situation, vous voyez que qui a été touché? Et au Yémen, uniquement les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les deux seuls pays qui sont encore engagés contre l'Irak, à bombarder toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et cette action-là, on a essayé de la lier aux négociations sur la Palestine. Or, je peux vous le garantir, parce que j'en ai assez l'expérience, les Yéménites n'ont strictement rien à faire de la cause palestinienne. Et je voudrais rappeler une chose à nos auditeurs, c'est que quand, en 1947, il y a eu un projet de partition de la Palestine entre les Juifs et les Arabes concocté par l'ONU naissante, eh bien, les opposants à toute notion d'État palestinien étaient non seulement les Juifs et un certain nombre de gens qui travaillaient avec eux, que ces Juifs soient en Israël ou dans la diaspora, mais la plupart des pays arabes qui ne voulaient pas entendre parler d'une nation palestinienne. Donc, il y a actuellement, parce que la chute de l'URSS a bouleversé les relations internationales, il y a un petit peu partout une montée des nationalismes, une montée brouillonne des nationalismes, et le Moyen-Orient n'échappe pas à à ce phénomène.
En ce qui concerne l'explosion du bateau dans le port d'Aden, enfin l'explosion, l'avarie grave du bateau américain dans le port d'Aden, moi, j'ai pensé à autre chose. Ça m'a rappelé l'affaire du USS Maine qui avait qui avait coulé dans le port de la Havane au 19e siècle, en 1865, je crois, ou quelque chose comme ça, 58, je sais plus exactement, qui avait donc coulé dans le port de la Havane. On avait dit que c'était les Américains avaient dit que c'était les Espagnols qui avaient commis un acte d'attentat, un acte de guerre contre le Maine, et ils avaient donc déclaré la guerre à l'Espagne. Ça a donné la fameuse guerre hispano-américaine. Après, on a appris qu'en fait c'était tout simplement une chaudière du navire qui avait explosé. Ça, on l'a appris quand même en 1976. Ça a mis longtemps à savoir. Hein.
C'est comme le massacre de Katyn. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, les Espagnols n'avaient rien à voir là-dedans. Je rappelle qu'en 1915, le Lusitania a été coulé par un sous-marin allemand qui a été accusé d'avoir coulé un transport de civils, ce qui a permis aux Américains de déclencher d'entrer dans la Première Guerre mondiale. On a appris ensuite que le fameux Lusitania était un transport de civils qui était bourré d'armement destiné à l'Europe.
Oui, beaucoup
absolument. Ce que les Allemands avaient dit dès le départ, ils avaient dit qu'ils ont mis des civils à bord, mais c'est un transport d'armement, et par conséquent, les lois de la guerre permettaient de le couler. Troisièmement, si je ne me trompe pas, Pearl Harbor, on sait maintenant que Roosevelt était parfaitement informé de l'intention japonaise de couler la flotte depuis le mois d'avril, et il a laissé faire pour enlever l'adhésion pour imposer silence aux non-interventionnistes américains qui étaient hostiles à l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et il a gagné d'ailleurs. Et je sais plus quelle année, je pense en 62, je sais plus exactement, Johnson a fait une déclaration, 65, je sais plus, Johnson a fait une déclaration en disant que, étant donné que dans le golfe du Tonkin, des actes de guerre avaient eu lieu d'origine vietnamienne contre la marine américaine, contre les unités de la marine américaine qui se trouvaient dans le golfe du Tonkin, il était important que les États-Unis usent immédiatement de représailles pour se faire respecter et que les États-Unis entrent plus activement dans la guerre. Ce qui s'est passé, on a découvert après qu'il n'y avait jamais eu le moindre acte de belligérance vietnamien dans le golfe du Tonkin contre des unités navales américaines. Donc, il y a une espèce, comme on sait que tous les pays ont les mêmes stratégies toujours, et que seuls change le moment et le lieu, mais que les techniques restent toujours les mêmes. Moi, je me suis posé la question de savoir si cette affaire du USS Cook, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, je n'ai pas son nom.
Cole,
qui a été endommagé dans le port d'Aden, c'est pas tout simplement un coup des services spéciaux qui ont dit on a besoin de ça pour l'instant, parce que c'est assez mystérieux quand même. Hein. Il y a plus de morts yéménites que de morts américains, nettement.
Si vous voulez, on pourrait envisager, suivant toute vraisemblance, cette situation-là, s'il n'y avait pas eu aussi l'attaque sur l'ambassade britannique.
Oui, mais ça peut être une coïncidence aussi.
Je ne crois pas.
Les gars s'énervent, ils disent tiens, c'est le moment d'y aller.
Je ne pense pas. Il faut savoir que le Yémen est en bisbille depuis fort longtemps avec l'Arabie Saoudite à propos de la province de Lassir. La province de la Syrie, un peu petite de Yéménite, est occupée par l'Arabie Saoudite. Et il y a dans ce coin-là, en plus, un gisement de pétrole qu'on a découvert et que les deux pays se disputent. Or, l'Arabie Saoudite est un client américain, tout le monde le sait bien. Le port d'Aden a longtemps été un port soviétique, un port d'escale soviétique. Mmh. Et les Américains n'y sont pas les bienvenus. Et comme les Américains sont très mal vus par les Arabes nationalistes, le nationalisme yéménite ne fait pas dans le détail. Et je pense qu'actuellement, si vous voulez, compte tenu
de... Aden, ils n'ont jamais fait dans le détail. Quand ils ont voulu que les Anglais s'en aillent, ils ont quand même...
Exactement.
Ils ont fait 2000 attentats en un mois.
Les Yéménites...
Sans précédent dans l'histoire de la guerre secrète.
Les Yéménites sont des gens extrêmement déterminés, très habiles. Avec un téléphone qui fonctionne très bien sans fil, puisque c'est le téléphone arabe qui est multiséculaire.
Bien connu.
Et en plus, il y a quand même une chose, c'est que il y a un soutien. vers l'Irak. Alors ce soutien n'est pas forcément politique, c'est aussi un soutien humain, car on a tendance en relations internationales à perdre de vue le sens de l'humain qui touche encore et qui émeut encore un certain nombre de gens qui ont des valeurs morales. Et je crois que si on perd de vue cette notion de sentiments humains, il va y avoir des fautes politiques, de politique internationale encore, dans les actions du département d'État.
Est-ce que la situation vous paraît de nature à inquiéter en Europe ou pas? Est-ce que ça vous paraît susceptible de déboucher sur une très grave crise internationale, même une crise armée, voire une guerre? Ou non.
Je crois que ce qui est extrêmement gênant actuellement, c'est qu'il n'y a pas en face des Américains une grande puissance diplomatique. Avant, c'était simple. On pouvait se retourner vers le grand frère soviétique si on était anti-américain et réciproquement. Est-ce qu'on peut envisager une aggravation de la situation? Au Moyen-Orient sur place, ça me paraît difficile. Je ne pense pas que les gens le souhaitent vraiment. Au plan international, pour le moment, les gens sont encore assez effrayés. Vous savez, tant que l'administration américaine sera en période électorale, et tant qu'elle aura le fantasme des guerres à zéro mort, elle ne me paraît pas très dangereuse.
Et ça,
si ce n'est pas la morale.
Il y a assez peu de chances pour que ça s'arrête, le fantasme des guerres à zéro mort.
Le fantasme...
Ça paraît une disposition.
Alors je crois que le fantasme des guerres à zéro mort sera...
Zéro mort américain.
Oui, zéro mort américain. Sera... Ouais, non, mais moi je vois monter autre chose, vous voyez. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne et je le répéterai. Parmi les malheurs qu'ont subi les Yougoslaves, ils ont quand même, pour nous, le mérite d'avoir constitué une espèce de réaction. Je crois que les gouvernements nationaux européens, quand il leur reste un petit peu d'esprit de décision, mis ensemble autour d'une table, se disent il faut plus qu'on se laisse embringuer dans des batailles ou des combats qu'on ne veut pas mener par le département d'État. On ne veut plus que nos hommes leur servent de chair à canon. Or, c'est pour ça qu'on voit monter, et comme toujours en Europe, c'est à l'envers que ça se fait, on voit se mettre en place des espèces de structures, de relations internationales, alors qu'il n'y a pas encore de politique internationale européenne. On voit se mettre en place une unité militaire qui, effectivement, a de la réalité, je veux dire en existence humaine et en matériel, des gens qui sont compétents. Est-ce qu'il y aura la volonté politique de s'en servir? Je n'en sais rien. Mais j'ai bien l'impression quand même que pour diverses raisons, les relations entre l'Europe et les États-Unis au sein de l'OMC ne vont pas être faciles. Et le soutien rapide qui a été apporté à M. Kostunica par des gens qui ont déclaré, alors qu'en fait c'était pas franchement l'impression qu'ils donnaient avant, que l'arrestation de M. Milosevic n'était pas une priorité immédiate, j'ai bien l'impression qu'il y a un changement de ton vis-à-vis des États-Unis et il semblerait que, peut-être parce qu'ils sont emberlificotés dans leurs élections, il semblerait que les fonctionnaires de l'administration Clinton, pour le moment, lèvent un peu le pied et baissent le ton. Et si vous voulez, il y a un certain nombre de tractations qui se mettent en place. Ce qui est difficile à analyser, je pense au souci de Jean-Pierre Gaillard qui analyse la bourse. Mais au plan politique, ce qui est extrêmement difficile à analyser actuellement, c'est que nos gouvernements réagissent au coup par coup. Ils essayent de faire preuve de pragmatisme, alors que le pragmatisme c'est un métier. Les Russes et les Britanniques savent parfaitement l'utiliser, le maîtriser et s'en servir. Mais ils n'ont plus la maîtrise des événements, et les événements qui s'imposent à eux, à mon avis, ne sont pas forcément mauvais pour un nationalisme bien compris en Europe.
À travers ce que vous dites, on a l'impression aussi que, à travers ce que vous venez de dire là précisément, c'est-à-dire cette irruption du pragmatisme dans la diplomatie française, on a l'impression qu'il n'y a plus de Quai d'Orsay. Le fameux Quai d'Orsay dont on nous a rebattu les oreilles pendant des dizaines et des dizaines d'années en nous disant le Quai d'Orsay, cette espèce de truc, mélange de grandes familles, d'invertis qui font leurs petits coups en dessous, qui légèrement marxiste, on ne sait pas trop. On a l'impression que c'était une espèce de mafia secrète, à la fois pédalo-marxiste, enfin un truc très bizarre. D'un seul coup, c'est fini. Non, on a l'impression que les choses se gèrent au niveau des dirigeants. Et puis selon, alors avec Chirac naturellement, c'est selon les foucades, le coup de bière du moment, où on ne sait pas trop. Enfin, c'est ça l'impression qu'on a.
Mais hein. En fait, l'impression que j'ai vécue moi de l'intérieur, et ça a été pour moi extrêmement sensible à partir de 94, c'est que nous n'avons plus de ligne directrice, nous n'avons plus d'axe de marche,
c'est ça, y a plus
de la République française ou de l'État français. Il n'y en a pas non plus pour l'Europe. Et les différents services, les différentes agences qui étaient majeures au plan gouvernemental autrefois, mais qui agissaient suivant des directives et suivant une politique générale qui était orientée, maintenant continuent à agir, mais chacun un petit peu dans son coin et au coup par coup. Or,
mais ça nous livre quand même pieds et poings liés à aux manœuvres de la CIA, des services de la diplomatie américaine.
À mon avis, oui, parce que eux ont en revanche un axe directeur,
ça c'est clair.
Qui est parfaitement clair. J'ai beaucoup vitupéré contre l'administration
Clinton. Ils ont un pitbull formidable, Madame Albright, quand même.
Oui, j'ai particulièrement vitupéré contre elle pendant des années, mais on peut pas leur reprocher de jouer leur jeu. Et mes reproches à moi, et en tant que citoyen français, en tant que citoyen européen, car moi je me sens citoyen européen aussi.
Je suis pas en concurrence avec vous là-dessus.
Non, je sais bien, mais de toute façon, je sais très bien que vous comprenez ma position sans forcément l'approuver, c'est pour ça que je vous dis librement. Je me sens citoyen européen, mais je voudrais qu'on définisse quelle Europe. Et je me sens citoyen français, mais j'aimerais bien qu'il reste encore une France. Et moi, c'est à nos dirigeants européens et français, et je dirais même nationaux, parce que j'en veux un peu aussi à mes amis britanniques, c'est à eux que j'en veux de baisser pavillon devant le rouleau compresseur américain. Un rouleau compresseur, on peut parfaitement l'arrêter. Et on n'a pas besoin d'être aussi gros au rouleau compresseur que lui. Il suffit de le vouloir. Et dans certaines occasions, parce que des multinationales à capitaux majoritairement européens et qui avaient des intérêts fermes à lever la barrière face à leurs concurrents américains, parce que cela avait décidé, eh bien j'ai vu, moi, à l'OTAN, bloquer des pressions américaines. Quand on veut, on peut.
Oui.
Bon, il reste à savoir maintenant qui nous commande. Est-ce que oui ou non, on admet une civilisation du libre-échange absolu, sans aucune notion de culture, de nation, de peuple? Est-ce qu'on admet une société dans laquelle, lorsque une entreprise annonce un plan social, ses actions montent en bourse? Est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce qu'on va continuer à se livrer à un nouveau dieu qui est une monnaie, qui peut s'appeler le dollar ou l'euro, je m'en fiche, et qui, de toute manière, n'est plus rien que du papier?
Oui, bon, c'est vrai.
Alors, est-ce que oui ou non, on a un projet humain? Est-ce que oui ou non, on a un projet politique, quel qu'il soit? C'est là ma question.
Alors, justement, vous me faites la liaison, vous m'apportez sur un plateau la liaison avec Philippe Lancardassac. Alors, Philippe Lancardassac, d'un point de vue nationaliste, comment considérez-vous la situation, alors, en France? Au regard de ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment, est-ce que vous avez la même impression que le commandant Munel? Il
n'y a, oui, a plus de diplomatie, dans les grandes lignes, certainement. Dans les grandes lignes, certainement. Je crois que on ne peut comprendre de ce qui se développe actuellement, et cela depuis déjà des décennies, si l'on ne comprend pas que nos pouvoirs dits nationaux ne sont plus totalement libres. Ils sont soumis à des lobbies qui imposent une certaine politique.
Et là, par exemple, on a entendu... moi, j'étais stupéfait d'entendre les vitupérations contre Chirac et contre la France qui a pris, soi-disant, parti pour les Palestiniens. Ça m'a pas frappé.
Ça rappelle tout à fait, et Dieu sait, vous savez que je n'aime pas particulièrement un certain De Gaulle, ça rappelle tout à fait la mésaventure qui est arrivée à se dénommer personnage quand il avait parlé du peuple sûr de lui et dominateur. Il avait dit... à la virgule près, ce qu'il ne fallait certainement pas dire. Et pourtant, Dieu sait s'il s'est appuyé sur eux pour prendre le pouvoir en France. Voilà, c'est ça le fond du problème. Dès qu'on dit la moindre chose contre certains, eh bien, c'est leur mort. Il y a un livre extrêmement intéressant d'un ancien membre de la Chambre des représentants américaine. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais je me rappelle du nom du livre qui s'appelle « They dare to speak out », c'est-à-dire « Ils osent le dire ». Et c'est la mésaventure d'un brave politicien américain, visiblement honnête, naïf en tout cas, qui raconte comment, ayant voté systématiquement toutes les aides financières et militaires à Israël, un jour il a émis un petit doute, pensant que, ayant appris que certaines armes servaient à tuer des civils palestiniens. Eh bien, il raconte que à partir de ce moment-là, sa carrière politique a été terminée.
Et alors, est-ce que vous
le
croyez...
NIBRIT et le AIPAC, c'est-à-dire une des associations de défense avec le Anti-Defamation League, qui dépend aussi du NIBRIT, ont tout fait pour le saboter au moment des élections, c'est-à-dire interdiction de parole lors des meetings, y compris par la force. Soudoiement des journalistes pour faire passer des articles style, etc. Vous ne le croyez pas? Ça me fait pas rire, parce que il raconte ça vraiment au mot par mot. Et c'est l'illumination vraiment du brave type qui n'avait jusqu'à présent aucune culture politique dans ce sens-là et qui comprend quand ça lui arrive sur la figure.
Alors justement, est-ce que ça va tout à fait dans le sens de la question que j'allais vous poser? Est-ce que vous ne croyez pas que, au fond, quelque chose de malheur est bon, que le diable porte pierre et qu'à force, certains vont finir par comprendre?
Écoutez, je crois que c'est ce que je le cite d'ailleurs dans mon dernier article dans le Libre Journal que j'ai appelé Eretz Israël. C'est ce que Bernard Lazare, qui pourtant ne veut pas être suspecté d'être un juif d'une certaine espèce anormale qui serait d'extrême droite...
Qu'on appelle puisque... les gens qui ont la haine d'eux-mêmes.
Bernard Lazare, il faut tout de même savoir qu'il a été un des artisans de la réhabilitation de Dreyfus.
Bien sûr. Hein,
donc c'est vraiment un juif défendant des intérêts juifs. Or, cet homme a eu tout de même l'honnêteté de dire et de répéter à plusieurs reprises dans son livre de l'antisémitisme que si de tout temps, je vous cite ça à peu près, toutes les époques, dans des pays différents, avec des religions différentes, des pays distants les uns des autres, le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même.
Oui, je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est pas ça. Enfin, en l'occurrence, c'est pas le problème. Je crois que réellement le problème, on le voit bien d'ailleurs, je le vois à travers le courrier que je reçois au Libre Journal et à la radio. Il y a une espèce, on a l'impression que il y a une prise d'otage. C'est-à-dire qu'il y a des groupuscules de gens qui sont autoproclamés représentatifs et qui se décident.
Tout à fait.
Eux-mêmes. Qui se proclament eux-mêmes comme les représentants d'une partie de la population française et qui font avec ça du raffut en s'appuyant sur une prétendue représentativité. Mais quand vous discutez avec les gens de la rue, avec les gens simples, évidemment, on ne peut pas... Anne-Mère Lachazla, par exemple, dont la maman était juive, fait un papier dans le Libre Journal où elle dit « Moi, vous ne pouvez pas m'en vouloir de préférer la survie d'Israël à la survie des Palestiniens. J'aimerais bien qu'ils survivent tous les deux. Mais si on me donne à choisir entre les deux, je préfère Israël. Et vous ne pouvez pas m'en vouloir. » Je crois que ça, c'est le sentiment de beaucoup, beaucoup de juifs de France qui disent « Après tout, nous, on a quand même une sympathie pour Israël. » Mais de là à faire comme ça s'est passé le 10 octobre, à défiler sous des drapeaux israéliens sur les Champs-Élysées, il y a une marge, parce que le drapeau israélien, quel que soit le respect qu'on puisse avoir pour un drapeau, qu'il soit israélien ou palestinien, c'est un drapeau étranger, il n'a rien à foutre dans les rues de Paris, sinon accroché au mât des Champs-Élysées quand le Premier ministre israélien vient en France, ou quand Arafat vient en France, on met le drapeau palestinien. Ça, c'est les règles de la réception des personnalités politiques. Mais des citoyens français qui défilent sous un drapeau étranger en France, c'est un truc...
On s'est déjà vu.
Oui,
oui, oui, les communistes défilaient sous le drapeau de l'Union soviétique.
Ah oui, mais bien sûr, mais c'est ça, oui, absolument. C'est pas plus acceptable d'ailleurs.
Ah non, pas plus.
En ce qui me concerne, je trouve ça intolérable. Donc là, on sort de l'épure, si j'ose dire. On est dans un autre cas d'espèce, puisqu'on est dans le cas. Et c'est pour ça que j'ai demandé aussi au commandant Bunel de venir pour nous dire si, selon lui, il y avait un risque de conflagration, parce que la question réelle qui se pose, c'est la question de la prise de position des populations intéressées. On sait maintenant, c'est démontré, on le sait très très bien, que s'il y a un problème avec les pays arabes, on a en France une bombe atomique humaine qui s'appelle l'immigration. Et que, pour des raisons d'ailleurs qui n'ont strictement rien à voir avec l'intelligence des situations, mais tout simplement pour des raisons viscérales, la plupart des jeunes beurs vont prendre parti pour les pays arabes si on a un jour un problème avec les pays arabes. On le sait, c'est pas difficile à deviner. Quand on voit qu'une photo de classe, par exemple, qui a été prise au lycée Rimbaud, dans un lycée qui s'appelle le lycée Rimbaud, dans la région parisienne récemment, présente une population, sur la classe, il doit y avoir à peu près 85% de maghrébins. Eh bien, ils brandissent des drapeaux marocains et algériens. C'est des Français, ils sont nés en France, ils font leurs études en France, donc ils ont la nationalité française, on le sait de façon certaine. Et il n'y a pas un drapeau français. Et je pense que si un type, un gosse, avait sorti un drapeau français à ce moment-là, il se faisait casser la gueule. Donc ils ont sorti des drapeaux algériens et marocains. Quand il y a eu la fameuse victoire du Mondial, on a dit qu'on avait vu les jeunes beurs défiler dans Paris, enveloppés dans les plis du drapeau français, on s'est foutu de la gueule du monde. Il y avait quelques drapeaux français, mais il y avait une majorité de drapeaux israéliens, des drapeaux algériens et marocains. Alors de l'autre côté, on a des juifs qui défilent, des juifs qui défilent sous le drapeau israélien, et qui sont probablement des citoyens français de confession israélite. Donc on est en train d'arriver dans une situation de communautarisation de la nation française. Alors moi, c'est vrai que je suis d'origine russe, je vais défiler sous le drapeau russe, mais comme je suis d'origine alsacienne, je vais défiler sous un drapeau alsacien. Enfin, c'est totalement n'importe quoi.
Et moi, je vais défiler sous le drapeau des Qatars.
Le drapeau Qatar, très bien, ça suit là. Bon, alors, mais est-ce qu'il... Ça, on expose une situation, mais comment en sortir? Comment la résoudre? Est-ce qu'il y a une solution nationaliste qui soit une solution acceptable, humaine, à ce genre de situation?
La solution nationaliste est d'une simplicité biblique. Je crois que c'est le cas de le dire, d'ailleurs, en l'occurrence. La nationalité française, pour ceux qui ne l'auraient pas au départ, ne devrait jamais être donnée en bloc. Elle devrait être donnée à titre individuel, à la fois en fonction du désir de l'impétrant et à la fois en fonction du mérite de l'impétrant pour la nation qui l'accueillerait. Je ne vais pas remonter jusqu'à l'affaire du décret Crémieux que vous connaissez, mais ceci rejoint votre question parce que si on considère que l'acquisition de la nationalité française, à quelque époque cela eût été fait, engage à une fidélité envers la nation française, cela interdit ipso facto une fidélité à une autre nation.
C'est évident.
Et que s'ils ont une fidélité à une autre nation, eh bien qu'ils aillent.
Oui, mais je vous ferai remarquer que dans le cas de... Bon, il y a des pays qui acceptent la double nationalité.
Il y a des pays qui... toujours sujet à problème.
Toujours, toujours, c'est évident. Seulement, le problème, c'est que... C'est pas, la France ne peut pas résoudre le problème de la double nationalité elle toute seule. C'est-à-dire que, par exemple, les Américains tolèrent parfaitement la double nationalité pour les citoyens franco-américains. Bon. Nous, on peut très bien dire, la double nationalité n'existe pas. Mais si les Américains disent, nous, nos ressortissants qui ont la nationalité française continuent à être, pour nous, des citoyens américains, on n'a pas de moyen de s'y opposer. Et donc, on aura des gens qui auront deux passeports, dont ils utiliseront l'un en France et l'autre ailleurs.
Oui et non, parce qu'on peut toujours déchoir quelqu'un de sa nationalité.
Oui, mais
ça dépend des actes qui l'auraient été
sûr, mais sûr, mais s'il n'y a pas d'acte délictueux,
il n'y a pas d'acte, évident.
C'est le cas avec la Suisse.
C'est le cas avec la Suisse, oui, c'est le cas avec Israël.
C'est juste.
Dans le cas d'Israël, Israël considère tout citoyen juif dans le monde comme un citoyen de nationalité israélienne. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'il refuse catégoriquement d'extrader. Les citoyens, même de nationalité étrangère, qui se sont réfugiés sur les territoires israéliens.
C'est l'histoire de Château Charon.
Voilà. Quand il s'agit de crimes, enfin de délits ou de crimes d'ordre économique. Il est vrai que quand il s'agit de crimes de sang, on vient d'en avoir un exemple avec l'affaire Weiss au Québec, enfin au Canada plus exactement. Là, Weiss qui s'était réfugié après avoir assassiné un jeune juif
au Québec, non, au Canada, qui s'était réfugié en Israël et qui était réfugié dans le Sahel, il était rentré dans l'armée israélienne, a été quand même extradé par Israël puisqu'il avait la nationalité canadienne. Mais ça vient de se produire, c'est des faits extrêmement rares. Le fait est que Israël considère que tout juif est de citoyenneté israélienne de facto. Oui. On n'a pas le moyen de s'opposer à ça.
Mais ce que je voulais dire, c'est que en Suisse, si on change de nationalité, on prend une nationalité française, la Suisse déchoit le Suisse de sa nationalité suisse.
Ah, pardon, moi j'ai des amis qui ont les deux nationalités.
C'est intéressant alors.
Ah non, j'ai un ami photographe qui s'appelle Eggman, qui est de nationalité suisse et française. Il m'a toujours dit qu'il avait les deux passeports.
Il a peut-être les deux passeports, mais est-ce que
peut-être que les Suisses sont pas au courant.
Ouais.
Enfin, n'étaient pas au courant jusqu'à présent.
Parce que je peux vous dire une chose, ça, c'est d'expérience. Quand nous avions des Suisses qui venaient à la Légion étrangère, on leur donnait immédiatement une nationalité belge ou autre, parce que sinon, lorsqu'ils rentraient en Suisse, ils étaient arrêtés et mis en détention parce qu'ils avaient enfreint la neutralité suisse en servant dans une armée, c'est une chose. Mmh. Ou alors, ils n'avaient plus qu'une solution, c'était demander la nationalité française en quittant la Légion, de façon à être automatiquement déchu de la nationalité suisse, et ils prévenaient le gouvernement helvétique, et changer de nationalité, de façon à ce que quand ils rentreraient chez eux, ils n'aillent pas en prison. Donc ça c'est un...
Comment les appelait-on les Suisses dans la Légion étrangère?
Je m'en souviens plus.
Les surnoms sont merveilleux, les surnoms.
Oui, là.
Les Africains, c'est les pilotes d'éléphants. Les Allemands, c'est les casques à boulons.
Les pilotes d'éléphants, ce sont les gens de Pondichéry.
Pondichéry, oui, c'est ça. C'est pas tous les Africains. C'est les, voilà.
Ouais.
Je trouve ça ravissant, ouais. Les pilotes. Voilà. Bien, je signale, donc je rappelle plus exactement que Philippe Plancard-Dassac a écrit un livre qui s'appelle Le nationalisme français, qui est paru chez nos amis
Duquesne
Diffusion. Et qui est une somme, je crois que ça résume parfaitement la doctrine nationaliste, d'une façon lumineuse, claire, très très abordable, intellectuellement. C'est vrai que les travaux qui avaient précédé étaient intéressants aussi, mais enfin ils étaient plus compliqués, moins directement abordables par des jeunes.
Des jeunes et des moins jeunes.
Et
en fait, c'est un livre qui est fait pour ceux qui ne connaissent pas le problème ou qui croient le connaître au travers de les fantasmagories de nos adversaires.
Oui.
Ou de certains de nos amis qui marchent aussi dans la combine. Parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire.
Oui, pas ce soir, si vous, on ne peut pas se fâcher avec tout le monde le même soir. On va essayer de
vous savez,
c'est déjà fait d'ailleurs.
Au point où on en est, je crois qu'il faut être chirurgical.
Voilà. Et. Commandant Bunel, vous allez donner une conférence prochainement. Alors, comme maintenant on a TPS et l'Internet, on peut l'annoncer.
Voilà, alors
parce qu'on est entendu là-bas.
C'est pas vraiment une conférence, c'est un dîner-débat.
Mmh.
Alors, c'est un dîner-débat au sujet de la guerre dans les Balkans. C'est organisé par M. Jean-Claude Manifassier, qui appartient à la fédération MNR de l'Hérault.
Mmh.
Donc ça a lieu dans un restaurant qui s'appelle le Patio del Sol.
Quel beau nom.
C'est à Saint-Jean-de-Védas, du côté de Montpellier. Alors, on peut s'inscrire par téléphone à la section du MNR de Montpellier, dont je donne le numéro, le 04 67 52 66 97, et puisqu'on est sur le monde entier, pour nos amis suisses et belges, 04 67 52 66 97.
97, j'aime beaucoup ça.
Alors, beaucoup de gens, j'espère, entendent Radio Courtoisie. Qu'on ne tire pas de conclusion hâtive sur le fait que ce soit organisé par la section du MNR de l'Hérault.
Vous n'avez pas adhéré au MNR pour
Je n'ai pas adhéré au MNR. Je n'ai adhéré à aucun parti, mais un peu à l'image de ce qui se fait à Radio Courtoisie. À partir du moment où on sollicite mes modestes compétences, j'y vais. Et si le Parti communiste m'avait invité à un dîner-débat sur
vous
le même sujet, je serais allé avec grand plaisir.
Vous seriez allé donner une présentation de mode à la place du colonel Fabien.
Absolument.
Merci
beaucoup. Avec Barézi et String.
Est-ce que vous pouvez répéter redonner les coordonnées de votre livre.
Alors, mon livre, le titre c'est Crime au pluriel, crime de guerre à l'OTAN. c'est édité aux éditions numéro 1. On le trouvait, on va le trouver de nouveau dans les librairies, dans les FNAC. Et justement, puisque on en était aux annonces, il y a une séance de dédicace de livres organisée à Versailles au Palais des Congrès par l'association Renaissance Catholique le 10 décembre.
Donc un membre est présent ici.
Voilà. Ah, oui. Et à ce moment-là, bah, ils m'ont fait l'amitié de m'inviter à venir dédicacer ce livre. Donc il y en aura quelques exemplaires disponibles à ce moment-là, à cet endroit-là. De même que pour le dîner-débat, nous en aurons une vingtaine. Pour les gens qui souhaiteraient se le procurer.
Alors, vous allez à la journée du livre de Renaissance catholique. S'il y avait une journée du livre de Renaissance musulmane, vous iriez aussi.
Absolument. De toute façon, vous disiez que je suis arabisant. Je donne des cours d'arabe actuellement dans des familles arabes et musulmanes.
Quoi, vous enseignez l'arabe aux arabes?
Oui, oui. Absolument. Bon,
voilà. On est toujours bien placés, nous. C'est vrai, non? Les Français, c'est génial.
Et ça se passe très bien. Cet après-midi, j'avais pas trop de cours, j'en avais quelques-uns. Donc je leur ai dit, ça tombe bien, je pourrais aller sur Radio Courtoisie. J'ai découvert que de nombreux Arabes, Nord-Africains, éduqués, écoutent Radio Courtoisie, même s'ils ne sont pas français, sont pas toujours d'accord avec tout. Mais
ça, j'imagine. J'ai reçu tout à l'heure une lettre, d'ailleurs, d'un auditeur algérien, qui me dit, je suis vraiment pas dans votre camp, mais je vous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, mais c'est d'autant plus que je suis rarement d'accord avec vous. Enfin, c'est, ouais. Voilà, on arrive à avoir des relations à peu près courtoises, quand même.
Absolument. Ouais.
Merci, commandant Bunel, merci Philippe Lancard-Assac, et puis à bientôt, on aura l'occasion de reparler. Peut-être que pendant, quand la guerre sera déclarée, on pourra faire un petit point de la situation. Bon, puisqu'on parlait de livres, on va peut-être écouter quelques informations sur ce qui va se passer le 7 novembre. On peut, Franck, écouter ça?